gouvernement dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. C'est la voix d'une mère que nous allons entendre aujourd'hui, celle d'une artiste du chant et du son, capable de faire vibrer toutes les cordes de la sensibilité. Une chanteuse dont les pieds souvent nus aiment sortir des sentiers battus. La voix d'une femme qui chante pour l'enfant qu'elle attend, qui lui parle par la voix et le son, le corps et les gestes. C'est la première fois que Camille accouche d'un long métrage. Et ce film, entre musique et cinéma, entre carnet intime et documentaire grand public, nous entraîne avec douceur, sensibilité et poésie sur le chemin de la maternité et de l'ouverture au monde. Le film s'appelle « Comme un poisson dans l'air » et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Camille.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
Merci d'être là. Parler ou chanter à son bébé quand on est enceinte, c'est assez courant, hein, chez les femmes enceintes. Le filmer et le partager au-delà de sa sphère familiale, amicale, proche, personnelle, c'est quand même beaucoup plus rare, même pour une artiste. Pourquoi est-ce que vous avez voulu, comme ça, partager cette rencontre sonore avec le grand public?
Parce que je trouve que souvent la maternité est comme une parenthèse pour les femmes. Hein, les femmes qui s'accomplissent dans leur vie professionnelle, elles attendent un enfant, bon, on n'en parle plus, c'est une parenthèse, et puis elles vont revenir travailler. Et dans le monde artistique, souvent c'est pareil. Une chanteuse attend un enfant, on n'en parle pas, on la laisse, elle sent sa vie privée, puis elle va revenir dans les studios, elle va enregistrer des chansons qui peut-être parleront de maternité, on ne sait pas, ou peut-être qu'elle gardera ça pour elle. Pareil pour les comédiennes, etc. Et en fait, pour moi, la grossesse, j'aime pas ce mot, être enceinte, j'aime pas non plus ce mot, attendre un enfant, ça j'aime bien, d'attendre un enfant, en fait, a comme réinitialisé mon amour pour le chant et donné tout son sens aussi à ma vocation. Et donc, j'ai énormément chanté enceinte, et à mes enfants petits, évidemment. Et j'avais envie de raconter qu'en fait, d'être enceinte, c'est être dans le chant et la création, et peut-être plus que jamais, en fait.
C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression, quand on regarde le film, qu'au-delà de votre bonheur personnel et intime, cette grossesse, c'est une occasion. Une occasion pour vous de réfléchir à ce que vous êtes, en tant que femme et en tant qu'artiste aussi, et une occasion de transmettre aussi cette relation si particulière qu'il y a entre une mère et l'enfant qu'elle attend. Une occasion aussi donc de parler de, on va dire, du sel de l'acte de création, quoi, et de transmettre justement aux autres et à l'enfant ce qu'il y a en vous. Et donc, comme vous êtes une artiste du son, une artiste du chant, une artiste du corps aussi, vous utilisez ces trois médiums-là pour faire comprendre cela à l'enfant et au spectateur.
Oui, c'est ça. D'être enceinte est une occasion pour moi, comme c'est quelque chose de très universel d'attendre un enfant, de très partagé, d'interroger mon histoire personnelle, mon rapport au chant et mon rapport à l'humain. Et interroger c'est quoi l'humain, c'est quoi d'être en vie. Je crois que c'est une aventure très vibratoire en fait, avant, pendant, après la vie. On est dans quelque chose de vibratoire encore plus que dans le son et dans la musique, mais je crois que c'est cette aventure vibratoire qui nous amène à la musique, à des...
Et donc on est à la fois dans une démarche maternelle et dans une démarche artistique. Les deux sont inséparables ?
Pour ce film, oui. Et depuis que je suis maman, c'est inséparable. Parce que je crois que quand on est maman une fois, quand on a porté un enfant, hein, je parle dans ce film de porter un enfant et aussi de ne pas donner la vie. Parce qu'il y a des femmes qui portent des enfants et il y a des fausses couches, il y a des avortements, il y a des enfants qui meurent en naissant. Mais une fois qu'on a vécu ça, je crois qu'on a porté en nous un tel mystère que ça nous transforme. Donc si on est artiste, oui, ça m'a transformé en tant qu'artiste. Et maintenant, je pense que dans ma manière de créer, il y a quelque chose de maternel.
Alors vous êtes née, vous, sous le signe du poisson. Oui. Signe que ceux qui croient en l'astrologie associent souvent à l'émotion, à la sensibilité, à la pratique artistique. Donc quand on vous connaît un peu, on se dit, bah, pourquoi pas.
En plein dans le mille.
Voilà. Le poisson dans l'air, c'est vous. Le poisson dans l'eau, c'est le bébé. On peut dire ça comme ça.
Oui, c'est ça. Le poisson dans l'air, c'est moi. Le film porte le nom de ce que je suis et que me révèle l'enfant dans mon ventre. Et je crois qu'une femme, quand elle attend un enfant, comme je le disais, ça lui fait interroger son histoire, ce qu'elle est, parce qu'elle va devoir le raconter à son enfant. Donc voilà, d'attendre un enfant en moi, je me suis dit, mais c'est comme un poisson dans l'eau qu'il y a en moi. Et ça me révèle que moi, je suis comme un poisson dans l'air. C'est-à-dire que parfois, moi, la vie, pour moi, c'est un peu une forme d'apnée.
Mais comment il fait pour respirer, le poisson dans l'air?
Ben, Le poisson dans l'air, il respire en chantant. Je crois que c'est par le chant que je retrouve une respiration organique pour moi et un lien au monde qui m'apaise et qui m'exalte.
On va écouter un premier extrait du film. On vous voit hein, entouré d'autres femmes enceintes qui forment un cercle. Vous êtes toutes assises en tailleur sur le plancher. Cette scène, Camille, vous avez la main posée sur votre ventre. La caresse de la main et la caresse de la voix sont aussi importantes l'une que l'autre ?
Oui, c'est juste sur un plan différent. La voix, on est plus dans le domaine du vibratoire, du subtil. Et la main, on est un peu plus dans la matière. Mais mon Dieu, tout ce qu'une main peut exprimer d'autre que la matière ?
Mais cette vibration, précisément, ça fait plusieurs fois que vous employez depuis le début de cet entretien ce mot de vibration. Vous avez l'impression, lorsque vous portiez votre petite fille, de vous entendre et d'être entendu de l'intérieur de vous-même et pas seulement de l'extérieur, comme lors d'un concert, par exemple.
Oui, c'est ça. Ça m'a recentré en fait. Le chant m'a. Moi, j'ai découvert le chant, enfin la magie du chant. Public, j'avais 15-16 ans. Pour moi, le chant, ça a été une manière d'aller vers le monde extérieur. Et presque de manière comme une ivresse. Tu vois, chanter partout pour tout le monde, faire chanter tout le monde, faire chanter le monde. Et d'être enceinte, tout à coup, ça m'a recentrée sur le chant intérieur. Parce qu'il y avait un petit être à l'intérieur qui entendait tout. Et donc, c'est très équilibrant. C'est formidable.
C'est-à-dire voilà. Que vous vous êtes immergé en quelque sorte avec le poisson dans l'eau et vous avez attiré d'une certaine façon le poisson dans l'eau vers l'air.
Oui, je trouve que
il y a un échange.
Tout à fait. Le travail intérieur qu'effectue une gestation d'enfant, une grossesse, ça prépare à libérer cet enfant, quoi, à ce qu'il sorte, quoi.
Donc c'est un chemin, c'est une initiation, et c'est vrai que là cette scène dont on vient d'entendre un extrait, donc on vous voit effectivement toutes assises comme ça sur le sol, on a presque l'impression d'un rituel, quoi, d'une forme cérémonielle.
Oui, et je crois que ce film et comment j'ai vécu mes deux grossesses, c'est ce film il interroge la place du rituel dans notre société. C'est une célébration du rituel, mais le rituel vivant, le rituel que chacun peut réinventer. Et je trouve que d'être enceinte est vraiment une occasion de ritualiser les choses. Chaque mois, l'arrivée de l'enfant, l'accueil de la société dans laquelle on vit. C'est ça qui rend les passages bénéfiques de la vie. Je pense que le rituel permet les passages.
Oui, et on a donc l'impression d'avoir une sorte de chemin à travers la construction de ce film, de parcours initiatique, de parcours sensoriel aussi, qui est fait de rituels, effectivement, mais aussi de rencontres. D'ailleurs, les deux fonctionnent souvent ensemble. Là, vous avez voulu élargir à vos amis, à votre famille, à des membres du corps médical aussi, hein, donc ils ont tous facilement accepté d'ailleurs d'être filmés et d'être projetés comme ça ainsi dans votre histoire pour le grand public.
Oui, ils ont accepté. C'est un corps médical que j'ai choisi avec mon corps à moi et ma sensibilité. Donc c'est des personnes qui sont en continuité avec qui je suis et que j'ai vraiment choisi pour ça. Et je pense que c'est important pour suivre une grossesse d'être accompagnée par des gens qui sont sur la même longueur d'onde. Donc c'est des personnes qui comprennent le chant, qui ont de l'humour, qui comprennent les femmes, que ce soit des médecins ou des sages-femmes. Voilà, les personnes qui sont dans le film sont quand même des personnes assez ouvertes.
Et il y a par exemple cette dame que l'on voit assise à son bureau dans un fauteuil rouge. Vous êtes debout, hein, Camille, à côté d'elle, et elle vous caresse le ventre avec beaucoup de douceur.
Non, non, c'est un petit pied, hein, ça c'est bon, sûr. Tu peux être sûr qu'il a la tête en bas, il n'y a pas de problème. Alors. Et tu vois, là, il y a à nouveau un très gros mouvement. Non, c'est quand même une contraction, parce que tu vois, il devient dur de partout. Alors, voilà. On va le bercer un petit peu, comme ça. Nami amiko, miko soya. Soya miko, nimau. Soya miko, nimau. Nami amiko, miko soya. Soya miko, nimau. Soya miko. Siki ni ke ni bébé ni maou, tana mi fe mambe, tana mi fe mambe. Siki ni ke ni bébé ni maou, tana mi fe mambe. Il est tout mignon, il répond bien. Il s'amuse. Il est chatouillé.
Peut-être.
C'est une fille ou c'est un garçon?
On ne sait pas.
Ah, on va bientôt savoir.
Ouais. Bon, et maintenant on le sait, hein, évidemment, Camille, puisque ce bébé, c'était une fille. Qui est-elle, cette dame que l'on voit dans le film?
C'est Paloma Chaumette, une grande sage-femme qui nous a quittés il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je crois. Parce que ce film a été tourné il y a... ma fille a 8 ans. Hein. Donc j'ai pris beaucoup de temps à accoucher de ce film. Et depuis, Paloma Chaumette nous a quittés, mais c'est une merveilleuse femme. Et c'était une merveilleuse femme, une merveilleuse sage-femme. Et elle me disait... Chantez, vous pouvez chanter à votre enfant, c'est merveilleux parce que les bébés entendent par la peau, ils entendent la vibration par la peau. Voilà, et c'est là où le chant rejoint le toucher pour ouais. Le bébé.
Et on a l'impression, effectivement, comme vous le disiez, que vous étiez toutes les deux vraiment sur la même longueur d'onde, qu'on a l'impression que cette relation-là va au-delà de la relation clinique et professionnelle qu'on peut avoir avec une sage-femme.
Je pense que c'est très important parce que attendre un enfant, c'est pas que clinique, et c'est là où évidemment le spirituel, le psychologique et le physiologique sont complètement imbriqués. Donc on peut pas séparer tout ça.
Il y a plusieurs scènes avec du personnel médical et comme aux autres personnes que vous rencontrez dans le film, vous leur demandez toujours de chanter quelque chose à votre enfant. Il y a une scène assez amusante et très touchante avec un médecin qui se fait beaucoup prier. Hein. Il explique qu'il sait pas chanter, voilà, qu'il a jamais fait ça. Bon, il est touché, il rit un peu, mais il finit par le faire. Donc c'est assez drôle et très émouvant en même temps. Donc il y a le chant de la mère, il y a aussi le chant des autres, il y a le chant du monde aussi. C'est par le chant c'est une sorte de propédeutique au monde extérieur, au monde dans lequel nous vivons tous.
Je me rappelle plus ce que ça veut dire le mot propédeutique.
Alors un apprentissage progressif qui permet justement de s'ouvrir.
Oui, merci.
Ouf.
Pour le glossaire. Complètement, et c'est là où moi, chanter m'aide à accepter le monde dans lequel je vis et dans lequel je veux mettre au monde mon enfant. Parce que je crois que le travail d'un parent, enfin moi en tout cas personnellement, c'est un grand travail d'acceptation, de lâcher son enfant dans le monde, quoi. Quand on en connaît ce qu'on en connaît. Moi, le chant me rend cela possible.
Donc vous-même, vous chantez tout le temps?
J'ai un besoin ouais, très très profond de chanter, ouais.
Donc en marchant dans la rue, sous la douche, en cuisinant, pas en dormant quand même, Camille, non?
En dormant, alors parfois je chante dans mes rêves, ouais.
Oui, quand même.
Mais je ne chante pas en vrai.
Oui, ça,
en vrai.
Ça aiderait le monde à tourner plus rond si tout le monde se mettait comme ça à chanter.
En fait, le monde chante beaucoup quand même. Je crois que c'est un besoin profond pour tout le monde. Et quand on chante pas, on écoute beaucoup de gens chanter. Sans chant, il y a pas un vendeur de téléphone portable qui vendra un téléphone portable. Ça porte non seulement les gens au fond du cœur, mais aussi l'économie, je dirais.
Et parmi les gens qui chantent dans votre film, qui chantent pour vous et qui chantent pour votre enfant, il y a aussi d'autres artistes. Hein, il y a Reggie Watts, il y a Sophie Cal, une scène extraordinaire dans une salle de bain. Il y a Émilie Loiseau aussi. Ça se passe dans une église orthodoxe. Je crois que vous êtes toutes les deux en mariée, en robe blanche, et donc évidemment vous chantez.
Silently swooping down just to show me how to give my heart away. Lately sparkling ghosts, come feel my dreams descending on fiery coals. I've seen them come clear down where our poor bodies lay. Soothes gently and say, not wipe all your tears away. And still I hear their whisper, love rising from the mists. Promise me this and only this. Holy breath touching me like a wind song, sweet communion of a king.
Les deux mariés s'embrassent, comme deux mariés après l'échange de consentement. Alors, il faut que vous nous expliquiez, Camille, pourquoi cette scène de mariage entre vous et Émilie Loiseau ?
Parce que je dis d'attendre un enfant en même temps, ça unit pour la vie. Et Émilie, ça faisait la deuxième fois qu'on était enceinte au même moment. Et notre premier enfant, on avait parié qu'elle aurait un garçon et moi une fille. Elle a une fille et moi un garçon. On s'est échangé nos termes aussi. Oui. Elle devait coucher le 18 et j'avais... Enfin bref, ça s'est croisé comme ça. Et la deuxième fois, rebelote, on était enceinte. Alors on s'est dit, bon, on n'est pas mariés. Mais on va se marier toutes les deux. Et en présence de nos compagnons. On s'est mariés en blanc, enfin la totale. Je crois que je me marierai... Je suis toujours pas mariée. Je crois que si je me marie, je me marierai pas en blanc quand même. Donc on s'est mariés en blanc à la chapelle et on a chanté avec nos enfants à la, il y a on voit pas l'image, mais on avait nos petits enfants déjà nés là, les grands, et puis les petits dans le ventre.
Alors vous aviez comme ça plein de petites scènes, souvent très émouvantes, souvent très fortes, plus ou moins longues, plus ou moins courtes, avec plein de gens différents. Comment vous avez bâti ensuite votre film à partir de ce matériau-là?
Ça a été très long, c'était comme des cartes à jouer qu'il fallait assembler avec la monteuse. On avait nos post-it et on essayait de trouver un ordre pour raconter tout ça, qui soit, bon, évidemment un ordre chronologique, mais pas que. Hein. Une grossesse, c'est pas linéaire. Et puis pour lier tout ça, et ben j'ai utilisé des dessins. J'ai beaucoup dessiné enceinte et j'ai complété ces dessins pour raconter comment je me sentais dans mon corps, quoi, par le dessin, des dessins très très personnels, et puis par la voix off aussi. J'avais pas envie de me raconter comme ça au début, et puis finalement ma grossesse, mes grossesses, et puis ce film m'ont amené à me raconter de manière assez intime et universelle, j'espère aussi.
Est-ce que je peux vous demander, Camille, comment va Lila aujourd'hui?
Alors, je peux pas parler de ma fille sans parler de mon fils, parce que le film est né aussi de ma première grossesse. Marius va bien, il a 10 ans, et Lila va bien, elle a bientôt 7 ans, 8 ans pardon, elle a 7 ans, 3 quarts, et elle va très bien, c'est une personne merveilleuse qui me fait beaucoup grandir.
Et vous chantez ensemble?
On chante énormément ensemble en se promenant. C'est très, très naturel, quoi. C'est comme un langage. Le papa est musicien aussi. C'est comme les familles qu'on dit bilingues. Bah, nous, on parle français et on parle le chant, quoi.
Merci. Merci beaucoup, Camille.
Merci, Jean-François.
Le film Comme un poisson dans l'air, disponible à partir de mercredi prochain sur la plateforme commeunpoissondansl'air.com et sur le site de votre producteur, hein, bachibouzouk.net. Merci.
Merci.
Un café gourmand, s'il vous plaît. Un café gourmand.
Le café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Fanny Blechner, Amélie Beaucourt, Alain Pilot et José Marigno. Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-François.
La Normandie, la Bretagne, la Charente et la côte méditerranéenne. C'est presque un petit tour de France que nous vous proposons aujourd'hui. Le Tour de France cycliste démarre, lui, demain à Brest, hein, comme vous le savez. L'été des festivals a, lui, déjà commencé. José, vous allez nous emmener dans un instant à Sète. Alors Sète, c'est la patrie de Brassens, Paul Valéry, Jean Villard ou encore Manitas des Plata.
Exactement. Alors on peut dire que Sète ville, justement, sa vie de graffiti, non de confetti. Pour la ville, pour le festival, j'ai un peu dur le matin, pour moi, le soir. Pardon, on refait, excuse-moi.
Voilà, donc la patrie de Brassens, Paul Valéry, Jean Villard ou Manitas des Plata, que tout le monde connaît.
Et voilà, il y a beaucoup d'artistes à Sète, et cette ville, ça vit donc des graffitis et pas de confettis pour le festival K-Live.
Musique encore avec vous, Alain, et un saxophoniste rennais.
Et quel saxophoniste, Daniel Pabeuf. Le son de Daniel Pabeuf est pour moi aussi emblématique de Rennes que les voix de Philippe Pascal ou d'Étienne Dao. Voilà ce que dit de lui Dominique A. Daniel Pabeuf, que l'on a entendu notamment au sein du groupe mythique Marquis de Sade, mais qui figure également sur des tubes d'Étienne Dao ou de Niagara. Il publie enfin son album solo en forme de questionnement, Hachise.
Alors Amélie, vous revenez d'Angoulême, hein, et comme à RFI c'est bien connu, on ne lésine jamais sur les moyens, vous avez passé la nuit dans un hôtel pas tout à fait comme les autres.
Ouais, un hôtel étrange où le réceptionniste est un fantôme et où vivent une bande de petits personnages imaginés par Catherine et Florian Ferrier. C'est une série de bandes dessinées à laquelle la bibliothèque de la Cité de la BD consacre une exposition pour les enfants.
Mais pour commencer, on part en Normandie. Alors Fanny, je sais pas dans quel hôtel vous êtes descendue, en tout cas vous revenez tout juste de Rouen, hein, donc en Normandie, et vous avez pu visiter au musée des Beaux-Arts de la ville une exposition consacrée à Salammbô.
Salammbô, c'est le titre d'un roman de Gustave Flaubert. Vous savez qu'on célèbre cette année les 200 ans de sa naissance, et pourtant à l'écrivain aujourd'hui on l'associe surtout à un de ses chefs-d'œuvre.
Oui, Madame Bovary, évidemment.
Exactement, son premier roman qui a fait scandale et qui lui a valu un procès retentissant pour atteinte aux bonnes mœurs. Flaubert est acquitté. Nous sommes alors en 1857. Il va se lancer dans l'écriture de ce qui deviendra Salammbô, nous rappelle Sylvain Amy, qui est commissaire général de cette exposition.
Il se rend bien compte que désormais, tout roman moderne lui est en quelque sorte interdit, qu'il risque d'être à nouveau exposé à la censure. Et donc, il décide de faire un détour par l'histoire, comme il le dit. Et il raconte à Jules Michelet, le grand historien, c'est un bouclier sous lequel on peut dire bien des choses. Donc, en fait, il va continuer son projet, rénover la littérature, parler du monde d'aujourd'hui, d'hier et de demain, en fait, parler des interactions entre les hommes et les femmes, parler des luttes pour le pouvoir, la richesse, parler du désir, parler des compromis que les uns et les autres font. Il va le faire sous le déguisement de l'histoire et il choisit cette époque très lointaine qui lui donne beaucoup de liberté, un petit épisode des guerres puniques qui ont opposé Carthage et Rome, qui montre la révolte des mercenaires qui ont combattu pour Carthage et qui n'ont pas été payés et qui veulent tout simplement leur dû.
Et tous les personnages de l'œuvre ont existé, excepté l'héroïne éponyme, Salammbô, donc, servante de la déesse Tanit, dont le mercenaire Mato va tomber follement amoureux.
Mais Gustave Flaubert, il est spécialiste de cette période de l'histoire ?
Alors pas du tout, mais il va se lancer dans de longues recherches de plusieurs années.
Et donc il amasse absolument tout ce qui est possible de lire sur l'histoire de Carthage, sur aussi le début de l'archéologie, et puis aussi la faune, la flore, les religions anciennes. Et il devient en quelque sorte le meilleur spécialiste du sujet de son époque. Et à un moment, il constate que finalement on sait trop peu de choses, donc il décide de se rendre sur place.
Et dans l'exposition, on peut donc voir ses carnets de notes et de voyages. Il y a des croquis sur la disposition des lieux. Rappelons quand même que de Carthage, il ne reste quasiment rien. Des croquis, mais aussi des impressions concernant par exemple la lumière. Et à son retour de Tunisie, il estime que tout est à refaire. C'est finalement en 1862 que paraît Salammbô. On peut d'ailleurs voir un énorme manuscrit avec son écriture griffonnée et la lettre et la phrase initiale. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar.
Et comment le roman est-il accueilli à l'époque ?
Eh bien, il rencontre un grand succès et très vite, les artistes vont s'en inspirer.
Petit à petit, on voit émerger quelques thèmes. Et le thème le plus retenu, bien sûr, c'est celui de Salammbô elle-même, qui est un personnage magnifique et qui va devenir de plus en plus érotique au fil des illustrations successives. Et en particulier cette scène où elle danse avec un serpent qui devient une scène, une sorte de poncif érotique. On le retrouve même, vous voyez, dans un film avec Salma Hayek et Tarantino qui s'appelle From Dusk Till Dawn, qui est en français Une nuit d'enfer. Petit à petit, ces scènes issues du roman pénètrent l'imaginaire collectif et relancent l'intérêt pour le roman.
À découvrir dans l'exposition des sculptures, des peintures, une illustration de Moucha et différentes éditions accompagnées de dessins. Jamais, moi vivant, on ne m'illustrera, avait pourtant déclaré Flaubert. Soit, mais alors, dès sa mort, on va s'en donner à cœur joie, et notamment Georges Rochegrosse.
Georges Rochegrosse a réalisé la première grande édition illustrée, et de luxe d'ailleurs, de Salammbô. Quant à sa femme Marie, elle a tenté de reconstituer par des travaux d'aiguille et d'une virtuosité, d'une beauté incroyable, ce qu'aurait pu être le voile de Tanit, la fameuse relique qui protège la ville de Carthage dans le roman, et que le mercenaire Mato va voler nuitamment et que personne n'a le droit de voir.
C'est un voile magnifique de 3 mètres de long, fait de broderies, de pierreries, de plumes et de sequins. Il n'est d'ailleurs pas sans rappeler les costumes d'opéra que l'on découvre dans la pièce suivante.
Et cette fois, Flaubert avait donné son accord.
Oui, promis, même s'il est mort avant que le projet ne voie le jour, par Ernest Dreyer la première fois, et avec Rose Caron dans le rôle-titre. Ambiance tout autre ensuite avec les adaptations cinématographiques. Jean-François, je ne sais pas si vous êtes adepte du genre péplum italien des années 50, recolorisé et kitsch à souhait.
Non, ça c'est plutôt le genre de José.
Ah oui, j'adore.
Ah bah alors, il faut absolument que vous alliez voir cette exposition. Je vous conseille vivement le film de Sergio Grieco, illustration avec cette scène.
Que les dieux soient témoins de notre pacte.
Donc là, pour vous donner une idée, Salammbô et Mato sont face à face. Elle boit dans une coupe, elle a 8 ans. Ils sont à peu près autant maquillés et lourds de bijoux l'un que l'autre. Ils se regardent intensément dans les yeux, très intensément. C'est un peu long. Et puis il lui répond.
Les dieux sont témoins de notre pacte.
Voilà pour le film. Et puis il y a un espace qui vous aurait beaucoup plu, Jean-François, j'en suis sûre. Celui consacré à la bande dessinée et à l'adaptation par Philippe Druillet dans Métal hurlant.
Il a importé en quelque sorte le roman de Flaubert dans un univers galactique et on voit un Mato qui est en fait son personnage fétiche qui s'appelle Lone Sloan, une sorte de vagabond des espaces interstellaires et qui va revivre toute l'histoire de Salammbô. Et quand on voit les planches de BD de Druillet, on a l'impression de voir Peter Jackson avec Tolkien. Aujourd'hui, c'est la même esthétique assez barbare finalement qui est à l'œuvre.
Toujours impressionnant le travail de Druillet. Alors ça, c'est dans les années 80, Fanny. Et l'intérêt pour l'œuvre de Flaubert est donc à nouveau relancé.
Oui, c'est ce qu'on apprend aussi dans l'exposition, c'est qu'il y a non seulement cet élan artistique autour de l'œuvre, mais aussi un élan scientifique.
Finalement, Flaubert a été un peu un guide pour les archéologues. Et chaque fois qu'il y a une trouvaille, on regarde si Flaubert avait bien prédit ou décrit cette hypothèse. C'est vrai que Flaubert s'est tellement bien documenté qu'on peut en quelque sorte penser qu'il a presque annoncé des découvertes. Mais c'est normal, c'était tout ce que devait être une cité antique, il l'avait décrit. Donc aujourd'hui, on a retrouvé le cimetière, on l'a appelé le Tophet, comme Flaubert l'avait appelé. On a découvert les citernes, les ruines de l'aqueduc, etc.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette exposition, elle est amenée à voyager. Elle ira cet automne à Marseille, au Mucem, puis au printemps suivant, au musée du Bardo, à Tunis, car là-bas aussi, Salammbô a marqué les esprits.
Et on est dans une Tunisie qui n'est plus colonisée, mais qui volontairement fait sien ce roman et dont elle montre aussi les limites, parce que Flaubert a su déjouer les poncifs de son époque, mais ceux qui l'ont illustré, ceux qui s'en sont emparés, eux, souvent, ont versé dans les clichés de l'orientalisme. Alors, on reconstruit petit à petit une identité commune à travers ce roman qui unit la Tunisie et la France.
Et l'exposition s'intitule donc Salambo, Fureur, Passion, Éléphant, avec des points d'exclamation à chaque fois. C'est à découvrir pour le moment au Musée des Beaux-Arts de Rouen, en Normandie évidemment, jusqu'au 19 septembre. Merci Fanny. Mer, art, musique. Le K-Life fait son show à 7 îles singulières de Paul Valéry et de Georges Brassens. Enfant du pays, hein, dont on célèbre cette année les 100 ans de la naissance. Festival pluridisciplinaire, le K-Live a son musée à ciel ouvert. José, il s'appelle Mako et il invite depuis 14 ans maintenant des artistes du monde entier à laisser à leur tour leur empreinte sur les murs de la ville cette fois.
Exactement, au détour d'une ruelle ou en surplomb du canal, les peintures sont partout, à l'entrée de la maison, la fenêtre, le garage. Elles habitent vraiment cette ville. Ici, les amoureux des bancs publics en hommage à Brassens, donc plus loin, les créatures fantasques qui habitent sur les hauteurs de la cité. Ces œuvres d'art éphémères, en fait, transforment cette en véritable temple de l'art urbain. C'est ce qui nous raconte, en tout cas, Christelle Labazour, qui est la directrice de K-Live.
Dans le cas de ce festival, nous avons élaboré ce que nous avons baptisé le Mako de Sète, le musée à ciel ouvert de la ville de Sète, qui réunit à ce jour un peu plus d'une quarantaine de peintures murales, qui se visitent à travers la ville dans le cadre de déambulations, des peintures que l'on peut découvrir au hasard de ces balades. Une scène de l'art urbain très éclectique qu'il y a dans ce mouvement artistique, qui fait partie des mouvements artistiques majeurs du XXIe siècle. Et le graffiti pur nous intéressait, mais pas que. Donc dans le cadre du Mako de Sète, on peut voir des artistes qui travaillent une abstraction géométrique, d'autres qui sont sur le pochoir, d'autres sur le collage, certains qui ont un travail très figuratif, d'autres encore qui pourraient être considérés comme les nouveaux peintres muralistes. Donc il y a en effet un éclectisme, un choix d'artistes très divers que nous avons voulu représenter.
Art urbain, graffiti, street art, muralisme, art contextuel, in situ, les mots ne manquent pas pour désigner les œuvres créées dans la rue. Et les initiatives ne manquent pas non plus, José, pour faire avancer ce mouvement street art.
Oui, alors longtemps relayé aux marges de l'art contemporain, il jouit aujourd'hui d'un engouement croissant et charrie notamment les pratiques, les esthétiques les plus diverses. Protéiforme, il agrège toutes les cultures et les générations. Pionnier dans ce domaine, donc le K-Live a anticipé et défendu l'essor de l'art urbain.
Le fait que nous offrions des cartes blanches aux artistes, cela leur plaît, parce que le festival existe quand même depuis 14 ans et qu'il a acquis une certaine reconnaissance. Et que ces cartes blanches leur permettent peut-être d'aborder ces grandes façades à peindre un peu différemment que lorsqu'ils sont dans un contexte dans lequel ils doivent présenter une maquette, soumettre cette maquette. Et je pense que cette carte blanche leur permet d'une certaine façon une libre expression. Et très souvent, ce que nous avons constaté, c'est que de fait, le contexte dans lequel ils interviennent, la ville, donc Sète, les inspire et ils se nourrissent donc de ce qui les entoure. Il y a à Sète comme cela, oui, on pourrait dire en effet un vent de liberté, en tout cas une création bien vivante.
Et créer en toute liberté à Sète, c'est donc une aubaine pour les jeunes talents, mais aussi pour les artistes confirmés.
Alors, une liberté, mais aussi créer en toute légalité, sans avoir la police aux fesses, c'est vraiment une liberté incroyable, en somme. Donc, humaniser la ville, c'est le but de C215. C215, c'est une figure incontournable du street art depuis 15 ans. Rappelez-vous de ces pochoirs d'une précision redoutable de Cabu ou de Christiane Taubira, ou ces portraits minutieux, aux rides très apparentes, ont fleuri partout, parfois à Paris donc, et avant de s'exporter dans le monde entier.
La notoriété en effet de cet artiste a contribué au début de la reconnaissance de notre projet, qui est intervenu en 2012, qui a posé l'une de ses toutes premières grandes peintures murales à l'époque. Ces 215, dont la présence et la générosité nous ont permis en quelque sorte d'asseoir ce projet de Mako, de musée à ciel ouvert. D'ailleurs, nous avons créé un jeu de pistes pour les enfants autour de certaines peintures murales, un peu comme une chasse au trésor, et des indices leur permettent de découvrir des peintures. Et c'est bien aussi d'être surpris.
Des surprises qui attendent donc les passants à chaque coin de rue.
Alors, vous risquez d'être vraiment étonné par l'univers humoristique et hybride des graffitis d'Alex One, avec ses personnages souvent masqués et armés. Cet artiste parisien, en somme, dialogue avec les mythes de la ville de Sète.
Lui a rendu un réel hommage à Sète en faisant des clins d'œil à la piraterie sétoise qui est supposément existée, puisqu'il paraît que Sète était un repère de pirates il y a longtemps de cela. Et donc, un pirate, il a représenté un pirate, mais en faisant également un clin d'œil au monde de la joute et au monde de la peinture, et tout cet univers s'est entremêlé. Et l'univers d'Alex One est très, très joyeux, très gai.
Oui, vraiment participer à la démocratisation de l'art, hein, c'est bel et bien un des objectifs de cette manifestation.
Oui, et ils sont 40 à 7 d'ailleurs.
Voilà, absolument.
Christelle Labazour.
Vivre parmi des œuvres, c'est bon pour la psyché de chacun d'entre nous. Ça vient comme ça éveiller notre part sensible, ça peut nous interpeller. Et je trouve important qu'il y ait comme ça des œuvres dans l'espace public. Les artistes sont en prise directe avec les populations des villes. Et parfois, des gens qui n'ont jamais été dans des musées ou dans des galeries osent interroger un artiste qui est en train de peindre et même suivre l'évolution d'une peinture sur plusieurs jours. Et ces artistes sont souvent très généreux et les échanges sont parfois assez beaux.
Ouvrez bien les yeux, le festival K-Live au MACO, musée à ciel ouvert donc de la ville à voir dans la ville de Sète. Merci beaucoup, José.
Merci Jean-François.
Bienvenue à Hôtel Étrange.
Bienvenue à Hôtel Étrange, c'est l'exposition Jeunesse à découvrir à la bibliothèque de la Cité de la Bande Dessinée à Angoulême, dans l'ouest de la France, un hôtel où on croise des fantômes et des petits monstres attachants, imaginés par Catherine et Florent Ferrier dans une série de BD du même nom, sortie dans les années 2011-2013, une époque où vous étiez déjà un tout petit peu trop vieille, Amélie.
Oui, un tout petit peu seulement, hein. C'est vrai qu'après avoir visité l'exposition, j'aurais adoré avoir 10 ans à cette époque-là et voyager dans les pages d'Hôtel Étrange. Je vais laisser Samuel Lévesque, le directeur de la bibliothèque d'Angoulême et grand fan de la BD, vous présenter l'univers.
Catherine Ferrier est une dessinatrice qui s'est vraiment spécialisée dans le domaine de la BD pour les enfants. Avant ça, elle a travaillé dans la mode pour les enfants. Elle faisait des tissus, elle designait des vêtements, puis au bout d'un moment, elle a envie de raconter des histoires. Et il se trouve que son mari est scénariste et ils créent donc des BD ensemble. Donc Florian Ferrier, qui est dessiné sous la forme d'un ours ici, c'est lui-même qui souhaite se représenter comme ça, parce qu'il est grognon mais gentil, comme les ours. Et Catherine, en fait, a du coup connu le succès en fait avec sa série Hôtel Étrange, qui raconte en fait un petit peu l'histoire de 5 personnages qui vivent dans un chalet un petit peu mystérieux, qui vont ensemble essayer de résoudre des situations un petit peu atypiques, donc un monstre qui arrive, un visiteur un peu atypique à l'hôtel, et en fait chacun des petits personnages représente un petit peu une facette de la personnalité de l'enfant. Il y a celui qui aime bien apprendre, celui qui aime bien jouer, et celui qui fait des colères, et en fait voilà, on peut toujours se retrouver quelque part quand on a un enfant dans un Hôtel Étrange. Elle fait des choses pour les enfants, mais c'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est niais, c'est-à-dire que c'est pas des textes bétifiants, c'est pas simple, les intrigues sont complexes. Donc c'est pas compliqué à lire pour les enfants, mais c'est quand même suffisamment complexe pour qu'ils soient accrochés et qu'ils aient pas l'impression qu'on les prenne pour des andouilles, quoi. Donc c'est vraiment très bien.
Oui, il faut dire que l'exposition a été pensée pour les enfants.
Ouais, en fait l'exposition est divisée en espaces thématiques qui reprennent les univers des 6 tomes d'Hôtel Étrange, avec chaque fois des planches et des illustrations inédites des auteurs, mais aussi et surtout un espace pour s'amuser et découvrir la BD autrement.
C'est une exposition qu'on a voulu très interactive parce que pour intéresser aussi un public qui n'a pas forcément l'habitude des expositions au concept d'exposition, il faut aussi les faire manipuler, il faut leur montrer que la bande dessinée c'est aussi un art vivant. On a reconstruit des éléments avec notre scénographe, des éléments liés à l'univers de la bande dessinée. Donc là c'est un trône qui est présent dans un des albums. Puis en fait on a aussi plein de petits jouets, plein de petits dispositifs amusants comme c'est... Dans ce mur qui représente donc une ville champignon, on peut enlever les petits capuchons et à l'intérieur il y a un habitant qui est en train de vivre sa vie. Donc, alors c'est rigolo parce que on a vu que les enfants ont quand même plus d'imagination que les parents, puisque les enfants comprennent tout de suite qu'on peut enlever les petits capuchons et qu'il y a des choses dedans, alors qu'on entend les parents dire non, touche pas, c'est l'exposition, il faut pas. Alors qu'en fait, évidemment, bien sûr, ils sont incités à le faire. On leur dit mais n'hésite pas à toucher les éléments, enfin, sauf les planches évidemment, sauf les planches et les originaux. Mais normalement c'est du costaud, ils peuvent y aller, ils peuvent tirer, ils peuvent taper sur les cloisons, il n'y a pas de problème. Quoi.
Oui, c'est vrai que depuis Benoît Brisefer, hein, il faut penser à la résistance des installations quand on s'adresse aux plus jeunes, Amélie.
Exactement, mais là tout le décor a justement été pensé pour résister à la grande force et à la grande délicatesse de toute cette petite main. La plupart des objets ont d'ailleurs été construits et bricolés par les équipes elles-mêmes. Je pense par exemple à un drôle d'instrument de musique, une espèce d'hybride entre un xylophone, un triangle et des maracas. Tout ça avec une attention toute particulière pour la récup.
Créer des expositions, ça ne veut pas forcément dire engloutir des ressources. Donc on a fait beaucoup d'emprunts de mobilier, on a fait beaucoup de recyclage de choses qu'on avait déjà et qu'on a retaillées. C'est un discours qu'il y a beaucoup dans Hôtel Étrange aussi, que les choses peuvent avoir une deuxième utilité, que les objets peuvent avoir une deuxième vie et que ce n'est pas pour ça que c'est cheap, hein, parce que nous, ça fait partie de nos convictions. Mais aussi parce que tout l'argent qu'on avait dans notre budget qui a pas forcément servi à ça, ça a permis aussi de racheter des jeux de livres, par exemple, pour les prêter aux classes. Donc dans notre enveloppe, on a essayé de faire en sorte d'avoir le plus de récup et de recyclage possible. On a par exemple là-bas un bureau qui nous a été prêté par l'Engmin, qui est l'école de jeux vidéo en face. On a été les voir, on leur a demandé ce que vous avez du mobilier dans un vide sanitaire ou quoi. Ils ont dit bah oui, bien sûr, tant que vous nous le rendez derrière, on va leur rendre superbement peint et poncé. Et c'est une logique qu'on voudrait essayer de garder dans nos futures expositions.
Et pour que vous puissiez imaginer un peu le dessin de Catherine Ferrier, j'ai demandé à Samuel Lévesque de nous décrire sa planche préférée. Alors on enfile une combinaison de plongée et on s'immerge dans la mystérieuse grotte de la page 32.
Dans Hôtel Étrange, les personnages ils voyagent toujours beaucoup. Et là, ils vont voyager vraiment à l'intérieur d'une caverne au trésor. Et j'adore en fait la manière dont cette planche est composée, puisqu'en fait, on va voir tous les personnages de l'hôtel qui vont déambuler en fait en regardant les merveilles qui sont autour d'eux. C'est une planche où il n'y a que deux cases. Il y a énormément de détails. Donc, on voit des sortes de petites anguilles qui ont tout un petit visage trop mignon qui sont en train de regarder les personnages passer. Et j'aime énormément le fait qu'on va voir tous les personnages avec chacun leur réaction. Donc, on a le petit curieux là, le petit explorateur. Qui est vraiment, il a un regard malicieux, regarde autour de lui. Il y a la petite fille qui est vraiment naïvement émerveillée. Il y a le petit monstre, il fonce parce qu'il est tout le temps en train de foncer. Puis vous avez derrière le fantôme qui est plus mystérieux, qui est en retrait, qui va vraiment. Et je trouve qu'on voit très très bien la manière dont les différents personnages vont réagir face à cette situation, puis la manière dont leur environnement va réagir à eux. Parce qu'on voit tous les petits habitants de cet endroit qui vont les regarder avec un air curieux. Puis voilà, tout de suite l'action reprend. Mais j'aime bien ce côté très vraiment où on va avoir un regard sur la série et les personnages qui vont regarder leur environnement, je le trouve vraiment très chouette.
Voilà, et pour finir la visite tranquillement, Jean-François, vous pouvez vous poser dans le bateau pirate en bois qui a été aménagé dans la dernière salle pour lire entre deux coussins moelleux.
Bienvenue à Hôtel Étrange, exposition à découvrir jusqu'au 2 janvier 2022. C'est au vaisseau Moebius d'Angoulême. Merci Amélie. Daniel Pabeuf, War, un passage de son album Ashes. Alors vous le disiez Alain, il s'est illustré avec de nombreux artistes.
Avec Sax Pistols, Ubik, Uto Ubohu, mais avec eux aussi.
Sommeil, Mark Itzad, Brand New World et Niagara, je dois m'en aller.
Tous avec le saxophone de Daniel Pabeuf, qui est également comédien et paysan.
Et dans ces nouvelles compositions, vous avez repéré, Alain, quelques références.
Et oui, à l'instar du morceau Jean-François Arcturus, où j'ai entendu du Kraftwerk, voire du Laurie Anderson, il faut noter que dans son adolescence, dans la moitié des années 70, Daniel lisait beaucoup de science-fiction et un thème récurrent était la fuite ou l'essor de l'espèce humaine dans les espaces intersidéraux. Dans la situation actuelle, il a surtout pensé à la survie par la fuite, ce qui n'est pas une hypothèse farfelue. Arcturus est une étoile d'une naine rouge qui se meurt au nord de notre galaxie pour se transformer dans 80 000 ans en plein planète gazeuse. Le titre de la chanson M87, eh bien, c'est la galaxie où l'on vient de photographier il y a quelques mois un trou noir. Musicalement, pourquoi a-t-il été question donc de Kraftwerk et de Suicide, le groupe d'Alan Vega, au cours de l'enregistrement de cet opus, Daniel Pabeuf?
On a commencé par 2 jours de pré-production qui étaient juste un petit peu trier les sons de mes maquettes, savoir ce qu'on allait garder de mes sons, savoir ce qu'on allait transformer, définir la manière de travailler le dispositif et aussi échanger sur la musique, vers quoi on allait. C'est un peu ce qui nous a réunis, évoquer Kraftwerk, Suicide dans les sonorités basiques de base quoi de ces années-là, ce qui nous réunissait. Et puis quand vous parlez de Laurie Anderson, c'est évident que Arcturus et même M87, le procédé des voix samplées sans parole, en onomatopée comme ça répétitive, oui, c'est un clin d'œil à Laurie Anderson, c'est vrai.
Arcturus, Daniel Pabeuf sur RFI dans le Café Gourmand de VMDN. Alors que trouve-t-on encore dans cet album?
Il y a aussi une certaine dispersion artistique que l'on retrouve souvent sur un premier album, ce qui amuse pas mal Daniel Pabeuf de dire qu'il fait un premier disque avec toute son expérience. Daniel s'est autorisé à mettre des choses qu'il transporte dans sa besace depuis 15 ans. Pour cet album solo, il en avait conscience et il l'assume. D'autres chansons sont moins sous une forme protestataire, sous une forme plutôt de constat. Mais de constat, c'est sombre de la situation de la planète au niveau des dérèglements climatiques, des nationalismes, des gouvernements autoritaires, de tout ce qui se passe en ce moment. Et il ne parle pas de la pandémie. L'hélico et sa première chanson protestataire avec de l'humour, comment marie-t-on les deux genres?
Cette chanson protestataire, donc assumée, je voulais mettre un peu de distance, c'est-à-dire que je ne voulais pas qu'elle apparaisse comme une chanson militante. C'est vrai qu'à Rennes, on a été, depuis quelques années, vraiment, on est servi par cet hélico. Bah, on sait qu'il y a une manifestation toujours quand il y a l'hélico, et il y a eu des fois, c'était assez pesant. J'ai essayé de faire ça, de créer des paroles un petit peu légères comme ça, pour m'en moquer, pour grossir un peu le trait. Après, ça s'est un petit peu raccordé avec une autre thématique, à savoir les violences policières racistes, hein, à travers les morts de George Floyd et Adama Traoré. Et c'est vrai que là, les refrains sont un petit peu plus... sont ouvertement revendicatifs.
C'est écrit sur les murs.
C'est rappelons l'intitulé de l'album de Daniel Pabeuf, Hachise, Cendre, en français dans le texte.
Le morceau en lui-même est très mélancolique. Hachise, pour Daniel, synthétise ce qu'il souhaitait exprimer, un eau futur avec une planète dévastée, mais avec une petite lueur d'espoir que l'on retrouve sur la pochette, le visuel de Sébastien Tomaso, avec ses nuages, ses arbres tout noirs et rabougris, une éclaircie dans ce ciel tourmenté sombre, mais au loin, on aperçoit des lueurs de ciel bleu. À Hachise, l'artiste a rajouté un point d'interrogation, ce qui suppose qu'il n'est pas totalement désespéré quand même. Alors de ces 3 citations et proverbes à base de cendres, lesquelles pourrait-il faire sienne? Si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre, Henri Rochefort, journaliste, auteur de théâtre et homme politique français, ou laver son linge sale en famille en utilisant pour la lessive les cendres des aïeux, Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français, ou bien vaincu, on sera réduit en cendres, vainqueur, en charbon de bois, proverbe malais.
Elles sont toutes les trois amusantes. Je pense que je suis assez séduit par la première.
Si haut qu'on monte, on finit toujours par descendre.
Descendre, voilà.
Merci infiniment, Daniel Pabeuf.
C'est moi qui vous remercie.
Hachise, c'est le nom du disque de Daniel Pabeuf, publié chez Il Monstro, l'autre distribution. Merci Alain, merci aussi à Amélie, Fanny et José. Dans un instant, l'info. On se retrouve lundi avec Suzy Morgenstern, une des grandes stars de la littérature pour enfants. Elle publie une autobiographie intitulée « Mes 18 exils » aux éditions de l'Iconoclaste. Et vous m'en direz des nouvelles. Du 30.